Midi 30, 14h.
La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant 60 minutes, nous allons vous montrer que les Français ont des idées, qu'ils savent les développer et vous, vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur le bien-être au travail. Les outils technologiques ont modifié l'environnement de travail. Les salariés doivent être productifs tout en travaillant sur plusieurs projets à la fois. Et 60% des salariés se sentent plus motivés quand leur patron prend en considération leur bien-être. Ainsi, des entrepreneurs français se sont lancés dans l'aventure du bien-être au travail et vous allez découvrir leurs solutions. Elles sont absolument passionnantes. Elle a 200 ans, elle fabrique de la porcelaine dans le Cher. Elle est l'une des rares entreprises de porcelaine française à tout fabriquer. Pilivut est l'entreprise qui va bien, merci. Faire découvrir la natation dans des zones sensibles, c'est l'initiative des nageurs de l'équipe de France de natation. Ça s'appelle Nageurs et Citoyens. C'est la solution et c'est ça, la France qui bouge.
Europe 1.
39-21, bienvenue à tous. Tous les jours, entre 13h et 14h, nous mettons en avant les initiatives des Françaises et des Français qui ont choisi de faire bouger les choses dans notre beau pays. Aujourd'hui, gros plan sur le bien-être au travail. Un salarié heureux est un salarié en bonne santé. Les entreprises sont de plus en plus mobilisées pour lutter contre le stress de leurs employés. Comment favoriser le bien-être au travail? Des acteurs français ont trouvé des solutions. Justine, on attend toutes les questions.
Exactement, sur Europe 1, on vous attend. Alors pour ça, vous avez soit le répondeur, bien sûr, le 39-21, 50 centimes la minute, ou alors Twitter, ou même europe1.fr.
Et pour les accueillir dans le studio Lagardère, François Geffrier.
Rebonjour.
Rebonjour, du service économie d'Europe 1. Vous allez nous éclairer pendant toute l'émission avec des tas d'informations supplémentaires. Notre coach du jour, Laurent Chouin. Bonjour Laurent.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le DRH du groupe Mazars. Alors si vous êtes salarié dans une entreprise, vous l'avez sûrement vécu au moins une fois, l'impression de perdre votre temps lors d'une réunion qui s'éternise. Les chiffres ont montré récemment que l'on consacre 27 jours de travail par an en réunion. Et il y a une solution pour lutter contre la réunionnite aiguë. Elle a été lancée. Bonjour Mathieu Beuchet.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur et le dirigeant de Klaxoon. Merci d'être avec nous. Comment ça a démarré?
Alors c'est évidemment, on a participé à pas mal de réunions. C'est une histoire d'équipe. On a commencé par les grands comptes, par... rencontrer différents contextes de réunion. Personnellement, moi, je suis passé par la recherche et le développement, puis ensuite par la production chez Valeo. Et à chaque fois, j'ai constaté que les réunions n'étaient pas toujours très efficaces, qu'on passait beaucoup de temps à essayer de s'écouter, mais finalement, on ressortait avec peu de choses, peu de décisions.
Donc la réunion la plus terrible, c'est quand on ressort sans décision et qu'elle dure très longtemps.
C'est le grand écart entre ce moment de silence, souvent dans la réunion, ce moment de gêne même, où on ne sait pas trop quoi dire, et puis l'après-réunion, où là par contre on a plein d'idées, et on débat, et puis on refait la réunion. Donc c'était cet écart-là nous, qu'on a essayé de résoudre et se dire c'est pas possible, il ne peut pas y avoir autant d'avis qui sont si mal exprimés pendant la réunion. Donc on a essayé de faire ce travail de consensus avec la technologie, en amenant une solution qui fonctionne sur n'importe quel terminal aujourd'hui, n'importe quel téléphone, ordinateur, tablette, etc. Et on va pouvoir, grâce à ça, gagner du temps pendant la réunion et surtout s'exprimer plus facilement.
Mais concrètement, comment ça marche? Par exemple, nous sommes 6 autour d'une table de réunion. Qu'est-ce que vous apportez?
Alors, une des premières barrières de la réunion, c'est l'oral, l'expression orale. Moins de 15% des gens sont doués d'éloquence, la capacité à exprimer clairement ce que vous pensez en temps réel. Donc, pour éviter de passer par la contrainte de l'oral, on va passer par l'écrit. L'écrit, tout le monde sait faire. On a tous appris, en plus, ces dernières années, à faire beaucoup, beaucoup d'écrits, beaucoup de textos, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Et ça a l'avantage d'une pensée synthétique. Donc, on va passer par l'écrit. On va pouvoir faire, par exemple, des votes, demander à tout le monde de réagir en un instant, où que vous soyez dans la salle ou à distance. On va poser une question et les résultats vont s'afficher en temps réel. Et donc, dès qu'on va prendre goût à cet échange de temps réel, qui est augmenté par la technologie, finalement, les échanges vont se libérer.
Il y a un côté ludique un peu.
Oui, tout à fait. Façon. Tout à fait. On s'appuie sur le côté ludique et le jeu vient du fait que la réponse va être instantanée. Souvent, dans le monde professionnel, on vous dit sois patient, sois rigoureux, prends ton temps, etc. Et nous, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas forcément incompatible avec une certaine immédiateté, avec une vision très synchrone de ce que tout le monde va penser. Vous soyez dans une salle, donc à plusieurs personnes, 6 personnes à la fois, c'est difficile de synthétiser une pensée. Quand on fait un tour de table classique, il faut avoir pris des notes, savoir ce qu'a pensé chaque intervenant. Avec Klaxoon, vous allez faire en sorte que finalement, les avis soient exprimés à l'écrit, et puis sur les écrans vont s'afficher les différents points de vue.
Et tout le monde les voit en même temps, les points de vue ?
Oui, tout à fait. C'est une solution qui est très, on peut l'appeler très, très équitable en termes de positionnement sur l'information. Tout le monde a le même niveau d'information. Tout le monde va voir en temps réel ce que pense le reste du groupe. Et surtout, on va faire en sorte de pouvoir faire ça, même si on n'est pas tous là en réunion au même moment. On va faire des réunions d'un nouveau genre, des réunions finalement en décalé. On va se poser des questions sans avoir forcément besoin d'être tous là au même endroit et au même moment. Et les réunions vont prendre une autre forme. Et finalement, ce qu'on appelle asynchrone, on va poser des questions, le groupe n'a pas forcément besoin d'être là pour réagir. Et tout ça va aider la discussion au sein du groupe et finalement l'efficacité de ce travail en équipe.
Mais c'est des questions ouvertes, fermées, parce que s'il y en a un qui donne son avis sur 3, 4, 5 lignes, ça peut aussi rallonger le temps de la réunion.
Alors déjà, souvent, au-delà même de la question, c'est simplement qu'est-ce que tu en penses ? On prend un sujet classique, on va lancer un nouveau produit ou alors on doit faire évoluer un produit. Souvent, chaque métier va venir intervenir avec ses propres contraintes. Là, finalement, vous posez la question au groupe, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau produit ? Et chacun va très naturellement pouvoir dire en quelques mots, bah, je pense qu'il est bien, ou alors j'ai entendu ça, de ma propre expérience, je pense que ça, 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 etc. ce serait intéressant. Et ces différents points de vue vont permettre d'affiner la réflexion. Et ça ressemble à un échange normal, hein. Ce n'est pas forcément des questions très, très compliquées à poser, simplement, qu'est-ce que tu en penses ?
Que dit notre coach Laurent Chouin, qui s'y connaît en réunion en tant que DRH du groupe Mazars ?
Beaucoup trop de réunions, quelque part. Non, mais surtout, c'est intéressant, Mathieu, parce que nous, en fait, on utilise Klaxoon depuis sa fondation, depuis que vous l'avez lancé. Par contre, et je pense que c'est l'image aussi de pas mal de mes collègues, on a tendance à voir dans Klaxoon surtout un outil de vote en direct. C'est-à-dire, on est dans une réunion, et puis on dit, tiens, on va essayer de voir ce que pense la majorité des participants. Donc, vous semblez dire qu'il y a bien d'autres choses derrière ça. Ce n'est pas juste ce sondage en direct.
Pas uniquement pour la décision, mais aussi pour la forme de la réunion.
Voilà, il se passe d'autres choses, donc manifestement.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est souvent découvert, ou en tout cas testé et utilisé pour la première fois dans les grandes réunions, dans les événements de rencontres de différents publics. Et en vérité, 99% de l'activité de Klaxoon se fait dans les réunions du quotidien au sein des équipes. C'est un outil qui est utilisé comme un outil de travail du quotidien, donc c'est-à-dire dans la durée. Et on va mettre dans Klaxoon les informations qu'on met d'habitude sur des bloc-notes à droite
et
à gauche.
Alors là, du coup, vous avez une occasion rêvée d'expliquer que ce n'est pas le 1% auquel on pense tous quand on pense à Klaxoon. Alors c'est les 99%, donc que ça nous permet de faire quoi finalement,
ça vous permet de transformer ces réunions du quotidien au sein des équipes, cette fameuse réunion peut-être de la semaine, cette réunion qu'on essaye de faire les matins avec des outils qui sont des fois un peu de briquet de broc, on a un tableau sur lequel on va mettre des idées qui vont tomber, on ne va pas pouvoir synchroniser les équipes à distance. Tout ça, on va pouvoir le faire dans Klaxoon. Et donc, c'est vraiment l'outil de réunion du quotidien. Et ça va vous permettre de capitaliser ces informations, de les challenger, de vous poser des questions. Et finalement, les réunions vont se transformer très naturellement. Et tout ça, ce n'est pas des choses qu'on a inventées. Ça s'appelle les méthodes agiles. Méthodes agiles industrielles qui ont permis, dans les années 60, c'est Toyota qui s'est lancé dans cette aventure. Ils ont mis à plat les process. Ils se sont dit, c'est pas possible qu'on mette les ingénieurs d'un côté et la production de l'autre. On va mettre tout le monde au même niveau. Et puis, on va discuter de ces outils, de ces produits qu'on fabrique ensemble. Et on va s'écouter les uns les autres. Donc à l'époque, dans les années 60, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas les technologies d'aujourd'hui, mais déjà ils avaient posé les grandes bases de ces outils qui sont...
Les cercles de qualité...
Voilà, des outils de discussion agiles sur lesquels le principe c'est quand même d'être efficace et de ne pas perdre son temps. Donc dans Klaxoon, avec Klaxoon, on ne va pas perdre son temps.
François Geffrier.
Vous voulez peut-être que je vous dise un petit peu quels sont les critères qui viennent dans une entreprise qui amène du bien-être à ses salariés. J'ai fait quelques recherches. Ce n'est pas uniquement le fait qu'il y ait peu de réunions, que ce ne soit pas la réunionite complète ou qu'il y ait un baby-foot dans une salle commune. C'est souvent qu'un encadrement qui fait confiance à ses équipes. C'est ce que disent les salariés eux-mêmes qui sont dans ces entreprises. Ils sont 84% à juger leur manager compétent, ceux qui sont dans des entreprises réputées pour ça. Ils sont fiers de déclarer qu'ils y travaillent. Quand on demande aux salariés travaillant dans un bureau ce qu'il leur faudrait en priorité pour améliorer leur bien-être et leur efficacité au travail, ils souhaitent avant tout aménager à leur guise leur temps de travail et aussi leur espace. Donc quand on entend parfois parler de flex office, de pas avoir tous les jours le même bureau, être assis à la même place, eh ben, c'est pas forcément ce que ressentent les salariés qui sont dans ces entreprises.
Et la réunion en fait partie. Est-ce que pour autant, avec votre solution, la réunion est plus courte ? Parce que alors, j'ai l'impression qu'avec ce que vous décrivez, au contraire, on peut prendre plus de temps parce qu'il y a plein d'avis qui se disent.
On va passer plus de temps à échanger, mais finalement, c'est ce qu'on appelle du temps masqué. C'est-à-dire que ça va se faire quand vous avez envie de le faire. On vous pose une question dans la réunion, on ne va pas se dire, écoutez, on reste dans la pièce tant qu'on n'a pas trouvé la solution. Avec Klaxoon, la question est posée, on s'en va. Et puis au fur et à mesure de la semaine, quand vous avez l'idée, quand vous avez un moment, vous allez répondre. Finalement, les retours qu'on a de nos clients, c'est qu'on divise par deux le temps passé dans les salles, en réunion, c'est ce énorme. Fameux temps où on perd notre attention, on perd notre énergie. Donc ce temps-là, on le réduit au maximum et puis on redonne de la liberté et de la capacité de travailler à distance.
Vous parlez de vos clients, je crois que 90% sont des grands groupes du CAC 40 ?
Alors, on a moins de 50% de nos clients sont des grands comptes français, notamment le CAC 40, qui 100% du CAC 40 aujourd'hui utilise Klaxoon. Mais 50% de nos clients sont aussi des TPE et des PME. Et aujourd'hui, l'entreprise a bien grandi puisqu'on a lancé le produit en mars 2015 à Rennes. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui a plus de 200 salariés, qui grandit avec plus de 120 pays qui utilisent la solution. Donc on est sur un outil qui est très consensuel, qui dépasse les clivages culturels.
On reste ensemble, on continue à parler du bien-être au travail et des solutions inventées par les Français.
Il est 13h10.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Mesurer régulièrement ce que ressentent les salariés, tout ce qui n'est pas dit, pour éviter tout malaise, une solution existe, c'est Blixo. Restez avec nous.
Vous êtes avec Elisabeth Assayag pour La France qui bouge sur Europe 1. Et ce lundi, c'est la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Alors venez parler bien-être au travail avec nous au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Un salarié engagé dans une entreprise sera plus productif et il y aura un effet immédiat, paraît-il, sur les résultats de l'entreprise. C'est le pari en tout cas de Blixo. Mais l'engagement dépend de tonnes de facteurs. C'est ce que va nous expliquer Stéphane Valère. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur de Blixo. Merci d'être avec nous. Alors, les managers et les dirigeants ne connaissent pas forcément l'état d'esprit des salariés. Et c'est ça que vous appelez un peu l'engagement ?
Oui, c'est ça. En fait, les managers, les dirigeants, les DRH ont finalement pas de moyens à part la machine à café ou radio langue de vipère sur ce qui se passe dans les équipes pour savoir ce qui se passe dans l'équipe ou dans les équipes quand on est un DRH. Et les collaborateurs, eux, sont frustrés de ne pas pouvoir donner leur avis. Donc nous, on a construit un outil.
Pour pouvoir savoir ce que pensent réellement.
Bah, ce que ressentent.
Les interactions
en tout cas.
Voilà, entre ça, les uns le but, et les autres.
Voilà, le but de Blixo, c'est vraiment de fluidifier la coopération entre les collaborateurs, les managers, les RH et les dirigeants, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs et surtout qui ne s'entendent pas, quoi, qui s'entendent pas avec l'oreille.
Donc vous parlez d'informations souvent subjectives, parce que c'est pas, là on n'est pas lié à la performance, à des résultats, on est lié à des interactions, sur le vécu, une ambiance, donc c'est dans un temps déterminé, c'est même pas tout le temps la même chose.
Oui, c'est ça, c'est du temps réel. En fait, on va interroger chaque semaine ou chaque 15 jours ou chaque mois, chacun décide ça à sa façon.
Comment ?
En 45 secondes, via des questions sur l'ordinateur ou sur le téléphone. 4-5 questions qui sont différentes, qui tournent. On récupère
Par exemple, quel type de questions ?
Pensez-vous que la stratégie de votre entreprise soit déterminante, soit pertinente, comme vous disiez tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans votre équipe ?
Simplement, comment ça va ce matin ?
Voilà, comment ça va ce matin ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir les bons outils pour travailler ? Est-ce que votre équilibre vie perso, vie pro est respecté ? Est-ce que votre manager vous donne du temps ? Est-ce que vous prêtez main forte à vos collègues quand ils ont besoin d'un coup de main, etc., etc. Tout ce qui fait que le matin...
Tous ces petits signaux faibles.
Voilà, c'est des signaux faibles et c'est ce qui fait que finalement, on est motivé, engagé, bien dans ses baskets, tout simplement, au boulot. Et ça fait un cercle vertueux. Hein. Quand on est bien dans ses baskets, tout va mieux. Donc voilà, on pose ces questions, on anonymise les réponses, on les agrège et on les restitue. Donc on capte de la donnée personnelle, mais on restitue de la donnée collective au manager ou au DRH. Sur son périmètre. Donc c'est un peu une météo locale pour le manager et une météo nationale pour le DRH. Et avec ça, on va pointer ce qui va ou ce qui ne va pas ou ce qui pourrait aller mieux. Et plutôt que de laisser le manager ou le DRH un peu devant son problème, c'est vraiment la force de Blixo, c'est que Blixo va pousser le bon conseil au bon moment à la bonne personne, sous forme de micro-learning, des choses très, très, très concrètes.
Mais oui, ça peut être quoi ? Parce que, comme ça, sonder plusieurs états d'esprit, c'est des états d'esprit humains, mesurables, entre guillemets, par un algorithme.
Oui, c'est ça, en fait. Vous savez, on demande leur avis aux gens, et puis on prend la donnée, on la triture, et on en sort des choses plutôt pas mal. Donc, par exemple, on va comprendre que, dans une entreprise, les gens sont... un peu perdu par rapport à la stratégie. Alors que le manager et le DRH passent leur temps à expliquer la stratégie. Mais apparemment, le message émis, ils n'ont pas votre talent, le message émis n'est pas reçu de la même façon par les collaborateurs. Donc là, Blixo va comprendre ça et en plus va dire au DRH ou au manager, tiens, il y a tel problème et voilà telle solution que tu pourrais mettre en place. Par exemple, organise une réunion dont le plan de travail serait ceci.
Une réunion avec klaxonneurs, évidemment.
Exactement, exactement. J'allais vous le noter de la bouche. J'avais préparé depuis hier.
Bon, désolé. Voilà. Donc voilà, ils vont trouver une façon de remédier à un problème que le manager n'aurait pas forcément perçu.
Bah oui, parce qu'en fait, de toute façon, le manager ou le DRH n'a pas la capacité, parce qu'on n'est que des humains, à poser autant de questions aussi régulièrement en temps réel à tout le monde. C'est impossible. Même le meilleur manager du monde, même le meilleur DRH du monde.
François.
Et donc les conseils, ils sont uniquement à destination du management ou ils sont aussi pour ceux qui ont répondu au questionnaire ?
Non, ils sont, on identifie le problème, les choses à améliorer, on les pointe du doigt à destination des managers ou des DRH.
Donc le salarié, il ne sait pas forcément à quoi ça sert de répondre à ces cinq petites questions le matin.
Si, en fait, si, parce que la solution permet de partager les résultats avec son équipe. Mmh. Ça, c'est vraiment à discrétion de chacun. Il y a des entreprises qui sont plus ou moins mûres pour ça. On a des entreprises qui partagent tous les résultats, mmh. et puis d'autres qui sont un peu timides, parce qu'ils ont un peu peur d'ouvrir la boîte de Pandore, alors que je pense qu'au contraire, il vaut mieux, la transparence aide. C'est un outil de médiation aussi. Hein.
Bien sûr. Mixo. Laurent, choix.
Mais c'est intéressant parce qu'il y a au-delà de l'information qu'il y a derrière, il y a déjà un message d'écoute qu'on envoie, c'est-à-dire le simple fait de dire « dites-nous ». C'est quelque chose
ouais.
qui aussi d'ailleurs génère chez les collaborateurs l'envie de s'exprimer, ce qui n'était pas forcément présent. En particulier, vous arrivez aussi à saisir des messages de gens qui d'habitude ne parlent pas.
Exactement.
Ou ne souhaitent pas parler. Là, disons, il y a une forme d'intermédiation qui est assez intéressante.
C'est ça, c'est plus toujours les mêmes qui parlent.
Oui, exactement. C'est exactement. Et c'est là qu'on récupère aussi une autre forme d'information que celle qu'on évoque. Moi, il y a un point par contre, alors on utilise aussi une formule concurrente hein, de Blixo qui s'appelle Jubiwi, mais qui est, c'est la même idée.
Ça s'appelle
comment ? Très bien. Jubiwi, c'est aussi un autre. D'abord, il y a une vraie, il y a des vrais champions français quand même dans l'affaire là. Donc
on
c'est
est là
vraiment
pour
très
les,
intéressant
pour les
de mettre en avant, exactement. Moi, ce qui m'intéresse, Stéphane, c'est aussi la dimension de conseil. Vous êtes passé assez vite là-dessus, mais c'est pas pareil parce que je trouve que ça, il y a une vraie valeur ajoutée. Une fois qu'on a l'info, d'être capable d'aller vers les managers et de leur dire, eh ben, vous savez, peut-être faites attention à ceci, faites attention à cela. Alors c'est ça, là-dessus j'aimerais vous questionner, parce que comment vous faites ça ? Comment ça se passe ?
Alors en fait, les gens nous disent ce qui ne va pas. Hein. C'est tout simplement...
Prenons un exemple.
Par exemple, je reprends l'image de la stratégie.
Oui, on ne la comprend pas.
On ne la comprend pas, ou on n'aime pas la façon dont ça nous est communiqué. Mmh, c'est opaque. Mmh. Bon, donc nous, on comprend ça. Derrière, nous, on a rédigé une énorme bibliothèque de conseils très concrets. Et ces conseils, ils ont été rédigés par des coachs certifiés. Donc des gens dont c'est le métier.
Vous travaillez avec des coachs aussi.
Voilà, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Ces conseils, c'est rédigé. Et à partir du moment où ce problème est identifié, on pousse le conseil qui nous paraît le plus intelligent, le plus opportun. On le pousse vers la personne. Qui peut le lit, c'est la formation, du micro-learning, qui le lit. Et puis au-delà de ça, une fois qu'elle l'a lu, soit elle s'arrête là, et c'est déjà pas mal, elle a le problème, elle a la solution, soit elle s'arrête là.
Elle constate, finalement.
Voilà, c'est ça. Et avec la solution, voilà, organiser une réunion, voilà le plan de la réunion, voilà ce que vous devriez faire, montrer que, blablabla. Et au-delà de ça, elle peut s'engager dans l'action, parce qu'il y a un moteur de prise d'action avec, donc je peux me programmer ça pour dans le temps, demander à Blixo de me relancer régulièrement, de m'évaluer.
Pour ne pas perdre de vue qu'il y a eu ces problèmes-là, ça peut éventuellement revenir. Donc vous êtes là pour envoyer
exactement,
une petite notification.
Voilà, de s'auto-évaluer sur le sujet. Et au fur et à mesure, comme on étudie ça, mécaniquement, c'est juste des mathématiques. L'ambiance, l'engagement, la motivation remontent, puisqu'on traite le problème le plus saillant avec une solution qui est maligne. Donc.
On reste ensemble à parler du bien-être au travail.
Il est 13h20.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Une salle de sport qui vient à vous au pied de votre entreprise, ça s'appelle Vamos et c'est son concepteur qui est avec nous. Restez avec nous.
Jusqu'à 14h, vous retrouvez La France qui bouge avec Elisabeth Assayag. Et avec vos invités, Elisabeth, on s'intéresse au bonheur, au travail. Mmh. Comment améliorer l'environnement, la santé, la sécurité dans nos entreprises ? C'est aussi la question qu'on vous pose au 39-21.
La salle de sport qui vient à vous au travail, c'est le concept développé par une agence stéphanoise. Bonjour Sylvain Tellier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Cosmos. Cosmos qui commercialise le programme Vamos dont nous allons parler. Alors pour que nos auditeurs comprennent le principe, Vamos, ce sont des containers maritimes de 15 à 30 mètres carrés aménagés en mini-salle de sport et installés au pied d'une entreprise.
C'est ça. C'est exactement ça.
Comment ça vous est venu cette idée ?
Alors en fait, cette idée, elle est partie de ce qu'est aussi l'agence Cosmos. Cosmos est une agence de transformation. Elle accompagne des différents clients sur des sujets de relais de croissance et de business development. Et de par nos pratiques, les nouvelles pratiques entrepreneuriales qu'on insuffle, entre autres celui de la pensée design, on est spécialisé dans une méthode qui s'appelle le design sprint, on a fait émerger un besoin interne lié à ce sujet du bien-être au travail et le besoin d'avoir une pratique sportive entre midi et deux pour se sentir bien, parce que un des éléments de notre ADN, c'est justement ce bien-être.
Et faire du sport pendant que nous sommes en train de travailler.
Tout à fait.
C'est votre postulat de départ. D'ailleurs, votre associé Julien, oui. Lui, il est professeur de sport à la base. Hein.
Alors, Julien a une formation de prof de
donc
PS, tout à fait.
Vous avez une sensibilité autour de cette question. Et donc, vous avez eu cette idée de créer des containers. Vous auriez pu vendre des coachs, des salles de sport. D'où ça vous est venu, cette histoire de containers?
Alors, l'usage du container, il a émergé plus comme une finalité. On a identifié, de par la pratique en interne de séances de sport entre midi et deux, qu'on avait besoin finalement d'un espace, un vestiaire, pour pouvoir se changer, pour pouvoir stocker du matériel et pour après avoir une pratique sportive en extérieur, avec un coach, pour justement lancer cette dynamique-là.
Donc vous êtes allé les chercher comment, ces containers? Comment ça?
Alors ces containers, l'avantage de containers aujourd'hui...
Il est comment d'abord?
Alors notre container, aujourd'hui on a lancé un premier concept, une preuve de concept qu'on a pu installer au niveau de ce qu'on appelle le quartier créatif à Saint-Étienne. C'est un container aujourd'hui qui fait 20 pieds, que l'on a aménagé comme un vestiaire.
Il y a quoi dedans? Voilà, des vestiaires.
Aujourd'hui il y a
femmes.
Un vestiaire, hommes et femmes, qui permet donc du coup de se changer et après d'avoir sa pratique de sport. Le tout, c'est une pratique qui est encadrée avec un coach. On ne cherche pas la pratique sportive de la performance, mais on est vraiment sur celle de la pratique du bien-être en équipe, en collectif. Donc ça, c'est vraiment un point qui est vraiment très important, c'est que c'est une pratique collective.
Donc le coach est devant le conteneur et le cours a lieu finalement devant le conteneur.
Tout à fait, il y a toute une série...
On pose juste ses affaires dans le conteneur.
On ne va pas courir un 400 mètres dans le conteneur.
Non, on ne court pas un 400 mètres dans le conteneur. Il y a une forme de parcours de santé autour du conteneur qui est animé par le coach.
C'est le point de ralliement finalement.
C'est le point de ralliement, tout à fait. C'est comme un totem, c'est un point de contact.
On peut lui laisser les affaires d'ailleurs dans le
conteneur. Tout à fait, oui.
Il n'y a pas de douche encore.
Il n'y a pas encore de douche et ça justement, ça c'est vraiment très important pour nous, c'est d'avancer par petites étapes. Donc ce container, c'est pour nous, c'est ce qu'on appelle une preuve de concept. Ça nous a permis de tester des usages et aujourd'hui on voit bien, de par la dynamique qu'on a lancée, alors pas que en interne mais aussi liée à l'externe, donc il y a d'autres personnes qui viennent pratiquer ces séances, et ben on voit qu'il émerge des besoins alors qu'on avait identifié mais pas tous, dont celui d'avoir une douche, bien entendu d'avoir des sanitaires et d'autres usages sur lesquels on pourra travailler et avancer par itération.
Ça évite d'agrandir les locaux, c'est une extension du lieu de travail.
Tout à fait, c'est l'un des avantages majeurs, c'est que d'une manière assez simple d'un point de vue logistique, du jour au lendemain, on peut installer ce conteneur au pied des bureaux. Ça a un usage assez simple et qui en effet d'un point
mais
de vue
logistique...
Mais
c'est un peu ça le sujet Sylvain quand même, oui. Parce qu'en réalité c'est un usage simple et donc c'est facile à copier. Et donc, vous voyez le sens des questions aussi que Elisabeth vous pose, c'est dans ce sens-là, je trouve, c'est comment vous allez sophistiquer le service, pour le dire autrement, pour éviter justement que n'importe qui puisse foutre un conteneur. Parce que franchement, l'idée d'humanisme est géniale. Nous, quand on veut mettre une salle de sport dans des mètres carrés d'entreprise, ça coûte trop cher. Enfin, c'est très compliqué.
Oui.
Donc ça, c'est génial. Le concept initial est formidable, mais qu'est-ce qu'il est copiable? Donc comment vous allez améliorer le service final?
Eh bien, c'est justement en travaillant sur ces différentes itérations avec les utilisateurs. Ce qui est vraiment très important pour nous, c'est d'associer les usages et ces utilisateurs et sur lesquels on va pouvoir travailler sur ces aspirations profondes.
Donc,
aujourd'hui, on ne sait pas.
C'est le coach hein, qui est sur place.
Aujourd'hui, c'est le coach. Demain, il peut y avoir d'autres formes d'usage. Aujourd'hui, ça, on ne le sait pas. Ça fait partie de tous les enjeux pour nous de travailler et surtout de bien associer ces utilisateurs.
François, on parlait des pratiques sportives importantes entre midi et deux dans certaines entreprises. Tout ça, ça s'est regroupé dans le bien-être au travail, parce que c'est un mot un peu fourre-tout, le bien-être au travail.
On parlait tout à l'heure de ces choses qui font que les salariés se sentent bien dans leur entreprise. Parfois, il y a certaines pratiques ou certains gadgets un petit peu que mettent en place les entreprises. Alors, j'allais dire après l'effort, le réconfort ou le repos, donc une salle de sieste, une salle de massage. On peut sponsoriser aussi, si on n'a pas les moyens, dans ces locaux, on peut sponsoriser les séances de sport. Et il y a les crèches d'entreprise, les conciergeries, on met à disposition aujourd'hui des fruits frais, il y a des espaces de jeux vidéo, le baby-foot évidemment, le ping-pong, un atelier Lego apparemment aussi également, et puis un escape game. Alors, tout ça, c'est à la fois un peu gadget, ça demande aussi un peu du budget. Chez vous, chez Klaxoon, Mathieu Beuchet, vous êtes lancé en 2015. Est-ce que vous avez arbitré entre ces différentes choses ?
Alors, pour être plus exact, on a monté l'entreprise en 2009 et Klaxoon, c'est la suite justement d'un long processus de réflexion sur comment on pouvait transformer nos produits et être plus efficace. Moi, je pense qu'on a testé beaucoup de choses finalement en 10 ans, parce que l'entreprise a 10 ans. Et on a d'ailleurs été élu l'an dernier 5e entreprise française où il fait bon travailler. Et le sujet du bien-être au travail, ça nous parle parce qu'on a testé ces différents gadgets, entre guillemets. On s'est rendu compte que finalement, le plus important, c'était que l'entreprise délivre un service de manière efficace. On n'a jamais pris autant de plaisir que quand on est bon face à un client, quand le client vous dit « c'est super, je vous adore, j'ai croisé ce moment tout à l'heure, on discutait avant l'émission ». Quelqu'un qui vous dit « super, j'ai adoré ce qui s'est passé avec votre entreprise », c'est le meilleur carburant qu'on puisse avoir. Donc finalement, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui nous a mené à Klaxoon, c'est d'aider les entreprises, les équipes à être plus efficaces. Donc évidemment, c'est bien d'avoir du ping-pong, des tables de baby-foot, etc. Mais il faut à un moment donné qu'on questionne l'efficience et le rendu de l'entreprise. Et ça, ça se travaille évidemment en réunion.
Allez, on reste ensemble, on continue de parler du bien-être au travail.
Il est 13h29.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
39-21, venez, on vous attend, vos témoignages, vos questions. Nos invités sont là pour vous répondre et pour échanger avec vous. A tout de suite.
Aujourd'hui dans La France qui bouge avec Elisabeth Assayag, on parle du bien-être en entreprise en cette journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Alors si vous avez des solutions, si votre entreprise a mis en place de nouveaux moyens pour que les salariés se sentent mieux, eh bien on vous attend sur europe1.fr ou au 39-21.
Et nous sommes toujours avec le coach du jour, Laurent Chouin, le DRH du groupe Mazars, avec François Geffrier de la rédaction d'Europe 1, avec nos invités Mathieu Beuchet, le fondateur et le dirigeant de Klaxoon qui optimise le temps passé en réunion, avec Stéphane Valère, le président fondateur de Blixo, ainsi qu'avec Sylvain Vallier, le cofondateur de l'agence Cosmos qui commercialise le programme Vamos, un container qui vous permet de faire du sport au pied de votre bureau. Justine, je crois qu'on a reçu quelques messages sur Twitter.
Exactement, Caroline nous dit « Je suis très sceptique sur l'anonymisation des données par Klaxoon. Je serai salariée. Je saurai que je suis virtuellement espionnable par un patron qui veut tout savoir sur ce que je dis et fait, donc je risquerai de ne pas répondre aux questions. »
Alors justement, on va essayer de répondre à cette question. Pas que ce soit Klaxoon, je pense que c'est davantage envers Blixo que s'adresse Caroline.
Qu'elle soit sceptique, Caroline, vous êtes sceptique.
Non mais c'est vrai, c'est une vraie question, on se la pose
même
tous.
Même si on se dit que c'est anonymisé en théorie, c'est vrai que dire « je ne suis pas d'accord » ou « je ne comprends pas la stratégie de mon entreprise », c'est quand même un peu touchy.
En fait, c'est touchy, mais d'abord, nous, on est tiers de confiance. On est une entreprise à part, on n'est pas l'entreprise elle-même qui sonde ses collaborateurs. On est tiers de confiance et on signe un contrat avec l'entreprise qui dit clairement « on va capter de la donnée individuelle et vous n'aurez jamais que de la donnée collective ».
Mais vous en faites quoi de ces données ?
La donnée individuelle ?
Oui.
Rien. Moi, ça me fait de la
donnée. Mais il y aura forcément une trace.
Oui, on est RGPD, on est super surveillé, c'est stocké
en
France.
Oui, mais avec son employeur qui nous verse notre salaire chaque mois, c'est plus compliqué.
Est-ce que vous observez un frein psychologique pour certains salariés à répondre aux
questions ? Oui, bien sûr. En fait, quand on démarre Blixo dans une entreprise, en général, il y a 50% de taux de réponse. Et puis, après quelques semaines, ça monte à 70, 80, 85% parce que les gens voient la plateforme et ils voient qu'il n'y a pas de nom, il n'y a rien. C'est juste des graphiques, des données collectives. C'est pas un sujet. Et en fait, plus l'information est partagée, moins c'est un sujet. Et d'ailleurs, il y a quand même des gens qui, après, c'est ça qui est formidable, ça libère la parole, il y a des gens qui signent leurs commentaires pour être sûr d'être identifiés. Et il y a des entreprises qui nous demandent d'enlever l'anonymat. Parce que c'est une question de maturité. Toute entreprise...
C'est bien ça. En fait, ce que ça montre, en réalité, c'est pas un problème de... c'est un problème de culture d'entreprise.
C'est
finalement.
Ça, de maturité.
C'est-à-dire qu'en réalité, dès l'instant où vous craignez que l'entreprise utilise l'outil, c'est pas l'outil qui est le problème.
C'est
la culture de la peur qu'il y a derrière et donc finalement la culture d'ensemble qu'il y a dans l'entreprise. Et ça, vous ne pouvez pas le résoudre par l'outil. Bien sûr. Parce que quel que soit l'outil, on trouvera toujours, surtout aujourd'hui, des moyens de le contourner. Et donc, à mon avis, c'est un vrai problème de culture, pas d'outil.
Et justement, en France, on n'a pas forcément cette culture d'entreprise. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on y vient petit à petit ?
Oui, en fait, ça vient...
C'est uniquement dans la tech
Non, ça vient, et pas que petit à petit. Ça vient très, très vite, là. Autant il y a 2 ans, je n'aurais pas tenu ces propos-là, autant maintenant, vraiment, c'est... Les gens ont envie de donner leur avis, les entreprises sont prêtes à ça, sont prêtes à partager les résultats. Enfin, plus il y a de transparence dans l'entreprise, mieux l'entreprise fonctionne. Et, voilà.
Et comment réagissent les managers ? Parce que là, vous êtes en lien direct avec les DRH, avec les patrons, pas forcément avec les managers. Parce que comment vont réagir les managers à long terme dans un environnement où l'on prend autant soin des collaborateurs ?
Ben en fait, on prend soin aussi du manager. Vous savez, les managers, ils ont envie de bien faire leur boulot
c'est
le matin.
C'est un collaborateur.
Ils sont collaborateurs. Un manager, il est collaborateur et manager. Et en fait, ce qui est compliqué, il faut voir le manager aujourd'hui. Imaginez un médecin de 2019 qui a fait 10 ans de médecine, qui s'est tout soigné, mais qui a comme outil de diagnostic simplement ce qu'avait Molière dans ses pièces de théâtre. Je sens l'urine, je regarde le teint et je regarde si t'as bonne haleine. Je peux pas faire mon boulot. J'ai mal au ventre, on va me donner un aspirine, mais c'est pas ça. J'étais en train de crever d'une appendicite. Le manager aujourd'hui, il a pas d'informations sur comment va son équipe. Et donc, il ne peut pas faire son travail, même s'il est dans une entreprise qui le forme, qui lui donne des conseils, etc. C'est très compliqué.
Mais le point s'adresse aussi à Mathieu, Stéphane. C'est-à-dire que vous ouvrez aussi la porte à ce qu'on appelle le scoring. C'est-à-dire, je note mon chauffeur Uber qui me note. Donc, derrière aussi, il peut y avoir une crainte, celle du manager, par exemple, d'être noté en direct. Voilà, exactement. Ou à l'inverse, même des collaborateurs, d'être noté en direct et d'avoir ce genre de transparence qui peut aller parfois...
On a comme l'impression que les collaborateurs deviennent presque des clients de l'entreprise.
Oui.
Bah, ça s'appelle la satisfaction salariée, c'est oui, entre autres.
Employée.
Mais enfin, moi, je parle vraiment pour ma boutique, mais Blixo, si vous voulez, que les problèmes, ils sont là ou ils ne sont pas là, Blixo est là ou pas là. C'est-à-dire que si l'entreprise est à une ambiance toxique, si les gens ont peur, qui est Blixo, qui n'est pas Blixo, à la limite, c'est mieux parce qu'avec Blixo, on objective le truc. Les gens vont le dire. Donc, on va pouvoir essayer de traiter le sujet, peut-être dans une division et pas dans une autre.
En tout cas, tous les trois, vous apportez des solutions pour améliorer notre bien-être en entreprise. Je vous remercie d'être venus nous en parler.
Et bravo.
Merci.
Oui, et bravo à vous en direct sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Il est l'un des derniers porcelainiers français. L'entreprise a 200 ans et c'est Pilivuit, l'entreprise qui va bien.
Europe 1.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Elisabeth Assayag avec La France Bouge. Et Elisabeth, à vos côtés, le président d'une société française qui existe depuis 200 ans avec un savoir-faire ancestral. C'est l'entreprise qui va bien, merci.
Et oui, elle a 200 ans, elle a l'énergie d'une start-up. L'entreprise de porcelaine Pilivuit à Meun-sur-Yèvre, située au cœur du Berry, ne cesse d'innover. Bonjour David Burnel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Pilivuit. Alors, en 1818, Louis-Charles Pilivuit implante son usine de porcelaine en plein cœur d'une petite cité historique du Cher, hein, donc à Meun-sur-Yèvre. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait déjà pas mal de porcelainiers, mais Pilivuit avait une petite chose bien à elle.
Alors, Pilivuit, effectivement, s'est installé dans le Cher très tôt, hein, il y a 200 ans, et pour deux raisons. Parce qu'il y avait à la fois du kaolin, qui est une des matières principales et qui donne la blancheur de la porcelaine. Il y avait un canal qui passait au pied de l'usine. Et en même temps, il y avait de la matière première, du bois, pour chauffer les fours. Et c'est pour ça que Charles Pilivuit s'est installé à Meun-sur-Yèvre. Et très vite, c'est devenu une porcelaine très blanche, très résistante. Et très vite, il est également parti à l'exportation, et ce qui fait que Pilivuit est une des premières entreprises françaises de porcelaine à exporter.
Donc, très tôt, vous avez su exporter. Et en plus de ça, vous avez une matière qui résiste au choc thermique. Et c'est en cela que vous êtes singulier.
C'est ça, effectivement. Donc, notre pâte...
On peut les voir en direct sur europe1.fr, voilà. Hein, justement. Allez-y.
Donc, notre pâte, c'est notre recette, hein, notre petite recette personnelle qui date de 200 ans à peu près. Bon, bien sûr, elle a été un petit peu aménagée au fur et à mesure du temps, mais fait de notre porcelaine, effectivement, une porcelaine très, très résistante. Parce que dans notre marché, où on travaille beaucoup, notamment avec la restauration, en France, on est surtout connu pour ça, on a besoin de porcelaine très résistante. Et donc, on a une blancheur particulière et une résistance thermique et mécanique très forte. On cuit, il faut savoir, notre porcelaine à 1380 degrés pendant 36 heures.
Donc dans des fours spéciaux, j'imagine, des personnes qui ont un savoir-faire bien particulier.
Oui, tout à fait. C'est dans un four qui date de 1956. un four tunnel de 50 mètres, donc avec une prise en température lente et qui nous permet effectivement d'avoir cette porcelaine parfaite.
Vous, David Burnel, quand vous êtes arrivé dans l'entreprise, on était en 2014, et l'entreprise n'allait pas si bien que ça.
Oui, alors effectivement, je suis arrivé en 2014 dans une entreprise qui avait déposé le bilan en 2012. 2014, c'était très compliqué.
Que s'était-il passé? Pourquoi?
Pour différentes raisons. Parce que le marché de la porcelaine aujourd'hui, la porcelaine, c'est quelque chose de désuet. Donc c'est un marché très compliqué. Parce que vous avez beaucoup de produits d'importation, qui a une surcapacité mondiale à fabriquer de la porcelaine. Donc il fallait vraiment trouver un axe qui permettent à l'entreprise de repartir.
Et vous avez justement, vous avez mis en place toute une stratégie pour redémarrer l'entreprise.
Ouais, on en parlait tout à l'heure, mais l'important, c'était aussi comment remotiver le personnel après tout ça et le faire évoluer dans une stratégie d'entreprise complètement différente. C'est-à-dire que d'une structure pyramidale, d'une entreprise bicentenaire, traditionnelle, comment on arrive à faire que l'entreprise devient agile, que le personnel n'est pas forcément posté sur un poste particulier, comment on joue sur la flexibilité.
Qu'est-ce que vous avez mis en place?
C'est beaucoup d'énergie, c'est d'expliquer aux gens que si on n'essaye pas de valoriser le savoir-faire, en travaillant non pas sur la quantité et sur le volume, ce qui est souvent un des axes sur lequel on travaille dans la porcelaine, c'est faire comprendre aux gens qu'il y a tout ce savoir-faire et tout l'investissement, c'est à le mettre dans le marketing aussi.
C'est ça, donc chaque objet raconte en quelque sorte une histoire et vous vous êtes dit, on ne va pas vendre que de la vaisselle, mais nous, on se positionne sur les arts de la table. Ça a été ça.
On va même plus loin, on va vendre un savoir-vivre français authentique. On en parle beaucoup en ce moment de ça. Et ben c'est justement ça. C'est se dire, c'est quoi la France authentique et comment on peut, par le biais d'un produit, essayer de l'imager.
Alors ça, c'est intéressant parce que d'ailleurs, vous dites Laurent la France Chouin. Authentique, avec cette, je crois, une grande proportion de produits vendus à l'étranger. Vous avez dit que vous étiez les premiers à exporter. À l'inverse, en France, vous vendez surtout en café, hôtel, restaurant, c'est-à-dire en collectivité. Mais donc, si moi, individu français, j'ai envie d'acheter. Je vais en ligne. Où est-ce que je trouve vos produits?
Alors, on a notre site, effectivement, où vous pouvez l'acheter. On a aussi quelques détaillants en France qui vendent notre produit. Mais c'est vrai que notre souci aujourd'hui, c'est comment arriver à mettre en relation le client final et le produit. Alors, juste, on travaille un peu en collectivité, mais vraiment en restauration, on est vraiment sur du haut de gamme premium. Puisque
vous avez même développé un restaurant gastronomique, vous, pour vous relancer?
Oui, alors on travaille avec Alain Ducasse, entre autres, beaucoup. Et justement, pour redonner une image et faire vivre aux clients une expérience de ça, on a travaillé sur un restaurant gastronomique mobile. Où on va...
Vous venez aux clients?
On vient aux clients. Par exemple, on a été pendant 2 mois à Chambord, qui est vraiment l'image de notre porcelaine. On est vraiment, on est plus foie gras que caviar, on va dire, donc plus Chambord que Versailles. Et pendant deux mois, on a fait vivre des expériences culinaires à des gens qui pouvaient acheter notre porcelaine sur place.
Donc, pour vous développer, vous agissez un peu comme avec une licence de marque. C'est comme ça que vous vous êtes positionné aussi?
Alors, ça, c'est un autre point, effectivement. Donc, on a la partie distribution sur laquelle on travaille par le biais de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, comment on fait vivre une expérience au client. Et en même temps, on s'est dit comment on peut avoir un booster pour nous aider à développer notre chiffre d'affaires. Et c'est pour ça qu'on a signé notamment une licence donc avec Chambord
aussi
avec la ville de Paris, voilà. D'ailleurs, qui nous expose en ce moment à la foire de Paris.
Donc c'est comme ça que vous arrivez à entrer sur des marchés nouveaux et à développer votre savoir-faire?
Exactement, c'est comme ça, entre autres, qu'on vient de rentrer au bon marché pour pouvoir vendre nos produits sous l'enseigne Ville de Paris by Pili 8.
Donc aujourd'hui, vous êtes 180 salariés.
À peu près, oui.
À peu près. La suite, ça va être quoi? Donc maintenant, vous êtes présent dans Paris, vous avez signé ce partenariat avec Paris, vous êtes présent dans des belles enseignes. C'est quoi la suite?
Alors la suite, c'est effectivement de pouvoir utiliser cette présence en France aussi pour continuer à développer, renforcer notre présence en France et développer notre chiffre d'affaires à l'international. Voilà, c'est vraiment notre axe stratégique de développement.
Et ben, en tout cas, c'est ce que l'on vous souhaite. Merci David Burnel d'être venu nous présenter l'histoire de la manufacture Pilive 8. Merci d'avoir su nous en parler.
Il est 13h48.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Apprendre aux enfants à nager grâce à des champions français de natation, c'est le programme Nageurs et Citoyens et c'est la solution du jour avec François Geffrier.
La France bouge continue jusqu'à 14h avec Elisabeth Assayag et il est temps de s'intéresser à la solution du jour avec François Geffrier.
Oui, apprendre aux enfants à nager grâce à des champions français, c'est le programme Nageurs et Citoyens. François Geffrier, racontez-nous tout.
Eh bien, aujourd'hui, un enfant sur deux arrive au collège sans savoir nager. Les chiffres sont encore moins bons dans les quartiers défavorisés. C'est un enjeu vital de santé publique car chaque année, 300 enfants de moins de 6 ans sont victimes de noyades. Alors, le programme Nageurs et Citoyens a des ambassadeurs de choix. Écoutez bien, les champions Mehdi Metella, Fantine Le Saffre, ah ouais, Charlotte Bonnet, Maxime Grousset, Yannick Agnel, tous médaillés. Ceux qu'on voit à la télé remporter des courses, ils se rendent dans des piscines municipales pour des journées d'initiation à la natation. Bonjour Sophie Camoun.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes vous-même ancienne nageuse olympique. Vous avez fondé ce programme Nageurs et Citoyens. Comment est-ce que vous réussissez à convaincre ces champions de venir au bord d'un bassin de piscine municipale pour aider des enfants?
Bah déjà, on en a parlé tous ensemble avant de mettre ce programme en place et on s'est dit, finalement, il y a une vraie problématique de société aujourd'hui. Comme vous venez de le dire, il y a un enfant sur deux qui ne sait pas nager en arrivant au collège. Et on s'est dit, qui est mieux placé aujourd'hui pour inciter ces enfants à aller à la piscine, pour les emmener faire leur première séance de natation, pour les inspirer tout simplement, pourquoi pas susciter des vocations même. Et c'est vrai que les champions ont tout de suite trouvé cette initiative très sympa et ont voulu collaborer.
Il y a un problème concret qui se pose, c'est le problème de leur disponibilité. Ces champions, ils s'entraînent, c'est un sport assez ingrat et je crois que vous le dites vous-même, qui connaissez bien ça. Comment est-ce qu'ils sont disponibles plusieurs journées par an pour les enfants?
Alors, pour le moment, ils sont disponibles 3 à 4 journées par an, mais on fait ça en général quand ils sont en vacances. Mmh. C'est pour ça qu'on a fait la première séance la semaine dernière, puisque les nageurs sortaient des championnats de France, donc profitaient de quelques jours de vacances. Que la prochaine séance
aura
lieu...
en vacances, vous les remettez
on les remet à l'eau.
Au bord du bain.
On les arrose régulièrement, vous savez. Et la prochaine séance aura lieu après les championnats du monde de natation qui auront lieu fin juillet. Et puis voilà, on profite de toute leur journée de vacances pour essayer d'avancer sur ce programme. Mais l'objectif, ce sera de faire rentrer plus de nageurs dans ce programme pour pouvoir avoir évidemment plus de journées et plus de villes concernées.
Alors ce programme, il a deux jambes, si je puis dire. Il y a donc les champions français connus qu'on voit à la télé, puis il y a les municipalités qui sont partie prenante.
Exactement, parce que ce programme consiste à emmener... Les champions emmènent les enfants à la piscine, donc pour la première fois, leur offre un équipement complet, leur fait faire leur première séance de natation et ensuite, derrière, les municipalités doivent prendre le relais. Et ça, c'est vraiment une condition sine qua non, hein, pour pouvoir participer à ce programme, c'est que les municipalités s'engagent derrière à prolonger l'apprentissage de la natation, parce qu'on n'apprend pas sur une seule séance. Donc, ils prolongent l'apprentissage de la natation pour tous ces enfants sur un minimum de 10 séances supplémentaires.
Et si vous avez dû mettre sur pied ce programme, c'est parce qu'il y a un problème dans l'apprentissage de la natation en France?
Quand on regarde les chiffres, on le voit bien. Effectivement, on est censé apprendre à nager à l'école, mais vous savez comme moi que c'est parfois très compliqué parce que
les classes sont surchargées, il n'y a pas forcément des créneaux horaires.
Le manque de disponibilité des piscines, le manque de disponibilité effectivement de créneaux horaires, le manque de MNS aussi pour surveiller l'apprentissage.
Maître sauveteur.
Exactement. Les problèmes de car pour aller à l'école, le car qui est en panne. Et puis quand on arrive finalement à la piscine, eh ben on se rend compte qu'entre le temps dans les vestiaires, l'appel et puis la mise à l'eau, les enfants passent 10 minutes ou un quart d'heure à l'eau. Donc, c'est forcément pas suffisant pour apprendre à nager.
Et vous ciblez certaines communes défavorisées, communes rurales.
Alors, évidemment, ça va être un focus hein, dans le cadre de ce programme. Les banlieues défavorisées, parce qu'on se rend compte que quand les enfants n'ont pas la possibilité de prolonger l'apprentissage en dehors de l'école, c'est compliqué, c'est très compliqué.
En vacances, à la mer, en famille, ce que toutes les familles ne peuvent pas faire.
Exactement, les chiffres sont encore plus alarmants, effectivement, dans les quartiers défavorisés, parce que les parents n'ont pas forcément la possibilité d'emmener les enfants à la piscine en dehors de l'école, parce que la piscine coûte cher, parce qu'il faut aller aux bébés nageurs, dans les écoles de natation, et que tout ça, ça a un prix. Donc c'est plus compliqué.
Laurent Chouin, ça vous inspire?
Un coup de chapeau plus qu'une question. Moi, je vais aller plus loin que vous. Hein. Franchement, c'était ni sympa ni glamour quoi, d'aller apprendre à nager à l'école. Et là, en fait, vous ramenez ces deux trucs-là. Et je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a bien sûr le projet d'apprendre à nager. C'est une vraie ambition. mais il y a aussi une forme de socialisation qui n'est pas présente quand on apprend traditionnellement à nager. Tandis que là, il y a cette envie de ressembler. Donc bravo, parce que c'est une initiative qui manquait, sans aucun doute.
Ouais, je pense bien que c'est un petit peu le rôle aussi de nos champions. Je pense de profiter de leur notoriété, de leur popularité pour défendre une cause, pour soutenir un programme, pour inspirer tout simplement les jeunes ou offrir une part de rêve à des gens qui n'ont pas forcément la même chance qu'eux. Et c'est bien qu'ils s'impliquent de cette façon.
C'était le programme Nageurs et Citoyens. Merci Sophie Camoun d'avoir été avec nous.
Merci
à Laurent Chouin, notre coach. Je rappelle que vous êtes le DRH de Mazar. Merci. François, Justine, demain nous parlerons des solutions pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. François, je vous laisse préparer votre rappel de titre et je vous dis à demain.